africaine, c'est une revue. C'est aussi un mouvement. Parce que ce qui nous avait incité à créer cette revue, c'est d'avoir constaté sous l'occupation allemande à Paris combien notre culture était absente de la culture dite universelle. Combien nos grands hommes, notre histoire était méconnue, voire bafouée dans la culture universelle.
Ainsi parlait Alioune Diop pour expliquer comment en 1947 il décide de créer une revue, Présence africaine, qui deviendra 2 ans plus tard une maison d'édition, celle des classiques africains, tant en littérature qu'en histoire ou sciences humaines. 70 ans donc, et pour cet anniversaire, un colloque sur le thème de la transmission est organisé à Paris, car Présence africaine n'est pas qu'une page d'histoire, mais bien un lieu vivant pour la culture noire. Bonjour Romuald Fonkoua.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Présence africaine, vous êtes aussi prof de littérature entre Paris et les États-Unis, la Sorbonne et l'université de Middlebury dans le Vermont. On va parler de la maison d'édition aujourd'hui, parce qu'il y a la revue, la maison d'édition et la librairie qui a été créée dans le quartier latin dans les années 60. Aujourd'hui, pour cause d'anniversaire, on se concentre sur la maison d'édition. Combien d'ouvrages au catalogue en 70 ans? On va pas les compter un par un, mais en moyenne.
1000.
Un petit millier,
Un petit millier.
Premier livre paru, La philosophie bantoue de Placide Tempels, et quand même c'est un signal fort.
1949, c'est le premier livre publié par la maison d'édition, en traduction, d'un ouvrage publié en néerlandais et qui se retrouve pour la première fois publié en français, dans une maison d'édition qui est neuve, à savoir Présence africaine, et c'est la présence de l'Afrique à travers la philosophie. C'est quand même le premier texte publié par la maison d'édition, et c'est significatif.
Et c'est la preuve que dès les années 50, l'homme africain est bien rentré dans l'histoire, si je dois reprendre un certain discours.
Ah bon, il y a quelqu'un qui a dit ça?
Quelqu'un, je crois. Alors ensuite, il y a eu la thèse de Chakantia Diop, Nation nègre et culture, et puis des très grands noms de la littérature. Alors je ne sais pas si je dois la nommer africaine ou universelle. Quand je parle en tout cas de classique, ça n'est pas tout à fait à la légère.
Non, c'est pas à la légère. Et si on reprend ce que disait tout à l'heure Alioune Diop, l'Afrique, c'est le centre du monde. L'Afrique, c'est l'universel. Et il faudrait rappeler que l'Afrique est quand même à l'origine de l'humanité. On a fini par l'oublier. Et les grands noms qui sont passés par Présence africaine sont ceux du continent noir, mais pas que, de la diaspora aussi, la Martinique, la Guadeloupe. C'est Césaire, c'est à côté de Chakantia Diop, bien sûr, c'est Senghor, c'est Damas, c'est-à-dire la plupart des fondateurs, en fait, de la maison d'édition du point de vue de la littérature et aussi de la philosophie. Et je pense que Alioune Diop ne faisait pas la différence entre les deux, entre ce qui relevait de la fiction et ce qui relevait de la raison.
Alors Alioune Diop est décédé en 1980. Vous l'avez connu?
Non.
Pas du tout?
Non, pas du tout. Ça fait partie des mystères de la vie.
Des ratés de la vie?
Pas du tout. Non. J'étais trop jeune pour pouvoir le connaître. Donc c'est un peu normal que je ne l'ai pas connu.
D'accord. Mais ça devait être quand même un homme d'une grande ténacité, d'une grande volonté.
Mais c'est pas parce qu'il est décédé en 80 que je ne le connaissais pas, que je ne pense pas ne pas l'avoir connu. Alors, pour connaître Alioune Diop, il faut lire les textes qu'il a publiés à la revue, Les Liminaires, par exemple, qu'il faisait, et surtout la façon dont il conduisait, en fait, les numéros spéciaux de la revue. On peut y voir un caractère, mais ces articles méritent le détour.
Alors, quel trait de caractère prédominant, selon vous, Romuald?
La fermeté. La ténacité, la clairvoyance. Je pense que ce sont des et l'humilité. Ce sont les qualités qui faisaient de lui en fait la personnalité qu'il a été et qui le reste encore pour toute l'histoire de l'Afrique et pour toute l'histoire de la littérature et de la philosophie.
Parce que créer une maison d'édition, ça n'est pas rien. La faire vivre pendant 70 ans, c'est aujourd'hui la veuve d'Alioune Diop et sa fille et sa petite fille qui s'occupent de cette maison. Ça n'est pas rien parce que c'est à la fois une grande petite maison d'édition ou une petite grande maison d'édition?
Ah, je sais pas dans quel ordre est-ce qu'il faudrait mettre les adjectifs, mais il faut avoir été fou pour pouvoir imaginer à la fin de la guerre que l'avenir de l'Afrique passait par la culture, que l'avenir de l'Afrique, la reconnaissance de l'Afrique passait par la littérature et par la philosophie. Il faut être fou pour pouvoir le penser. Il faut être doublement fou pour pouvoir penser en plus que cela passe non seulement par une revue, mais aussi par une maison d'édition. Pourquoi la revue ? Parce que c'était justement le lieu de la création d'un modèle de pensée et des figures de pensée. Et pourquoi la littérature ? Parce que la littérature, c'était en fait le lieu de la création, de l'imagination. Deux choses qui avaient été niées à l'Afrique, deux choses qui avaient été niées aux Africains, deux choses qui avaient été niées aux Nègres, en fait, à l'époque. Et je pense qu'il a voulu conjoindre les deux dans ces deux entreprises, la revue et la maison d'édition.
Et le logo de la maison d'édition, c'est un homme debout.
Oui, mais c'est d'abord une figure de l'Afrique qui vient du pays d'Ogon. Donc ça, il faudrait également le rappeler. Et cela renvoie bien sûr à tout le rapport que la maison d'édition entretient déjà avec l'art africain. Il faudrait se souvenir qu'on est dans un grand débat aujourd'hui sur la question des restitutions de l'art africain, mais la maison d'édition avait déjà pensé la question des arts africains déjà au début des années 50.
Pour vous, Romuald Fonkoua, est-ce que, regarde l'histoire hein, bien sûr, 1949 donc le démarrage de la maison d'édition, est-ce que c'est vraiment un point de départ dans l'affirmation de la culture noire ?
Non, c'est pas un point de départ, mais c'est le point de départ. Avant, il y a une affirmation de la culture noire. La revue du Monde Noir, par exemple, dans les années 30, c'est déjà l'affirmation du Monde Noir à Paris. Ce sont les Antillais qui font cette affirmation. Ce sont les sœurs Nardal qui font cette affirmation dans les années 30. Mais présence africaine est le point de départ parce que présence africaine est créée par un homme qui a une double qualité. Il est un homme de lettres, il est aussi un homme politique. Et les deux vont se conjoindre effectivement dans cette entreprise. Les autres sont femmes et hommes de lettres, mais ne sont pas hommes et femmes politiques. Lui, il connaît très bien le milieu politique. Il sait très bien qu'une aventure qui est une aventure intellectuelle ne peut pas, dans les années 40, se passer justement de l'expérience politique. Il a l'expérience politique et il va conjoindre effectivement les deux dans l'entreprise qui va être la sienne. C'est pour ça que c'est en fait un point focal. C'est parce qu'il permet de lier et le politique et le littéraire.
Le point de départ de l'affirmation d'une culture noire à Paris, en France, mais dans le monde aussi. Oui. Ça reste quand même cantonné à la France et à l'Europe.
Ah non, ça reste pas cantonné à la France. Mais j'avais dit que l'avantage de la France dans cette histoire, c'est d'être un peu au centre. Je dirais pas que c'est le centre du monde, mais un peu. Allez, on va être un peu franchouillard quand même. c'est un peu le centre du monde. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tous les nègres, pour reprendre les termes de l'époque, africains, antillais, américains, viennent à Paris. Les Haïtiens sont à Paris, donc ce monde-là est un monde qui est parisien. Et effectivement, Paris, c'est une sorte de plateforme qui est ouverte au monde entier. Et je crois que de l'avoir créé à Paris était absolument significatif de ce point de vue-là, du point de vue d'une mondialisation de Paris, qu'un certain nombre de Parisiens ont oublié. Et cette mondialisation-là, ben Paris le fait dans les années 30, lorsqu'on organise à Paris l'exposition coloniale et universelle. D'accord, les surréalistes ne sont pas d'accord. Content, mais c'est pas très grave. C'est que Paris est aussi une porte ouverte sur ces terrains-là.
Et pendant quelques décennies, parce que c'est en 56 à Paris qu'est organisé le premier congrès des écrivains noirs, c'est à la Sorbonne et on le doit aussi à Alioune Diop.
Oui, et d'une certaine façon, j'explique toujours à mes étudiants dans mon amphi de cours que je suis à côté de l'amphi le plus important, qui est l'amphi des cartes, qui est celui, n'est-ce pas, qui est au bout du couloir. Ça me plaît de le dire aux étudiants.
Où s'est tenu ce congrès ?
Oui, absolument, c'est l'amphi des cartes, c'est du 19 septembre au 22 septembre 1956, c'est à l'amphi des cartes, c'est-à-dire l'un des plus grands amphis de la Sorbonne, à la Sorbonne, ce qui est quand même pas rien.
Il y a une plaque ?
Malheureusement, non.
Qui a trouvé le titre Présence africaine ? J'ai lu que c'était Jean-Paul Sartre.
Ben, je crois qu'en fait, il y a plusieurs conjectures. Jean-Paul Sartre a sans doute apporté sa contribution, mais il me semble que c'est Balandier, c'est Alioune Diop, dans une discussion à bâton rompu, qui ont permis de pouvoir penser que l'expression présence africaine était sans doute la meilleure pour pouvoir rendre compte d'une aventure qui était celle qui allait se constituer à ce moment-là.
Et c'est un très beau mot, le mot de présence.
Ah oui, c'est pas simplement qu'il est beau, il est chargé. Comme on dit, des masques africains, c'est un mot qui est chargé. Il est chargé de toutes les connotations de l'esclavage d'avant, qui en fait avait nié la présence du noir, de toute l'histoire de la méconnaissance du continent noir, de toute l'histoire de refus de l'existence d'une histoire qui serait une histoire noire. Il fallait affirmer une présence, juste une présence, être là. Enfin, être là, c'est-à-dire ici. Ici, ça veut dire non seulement au cœur de ce qu'on croit être la civilisation, mais également au cœur du monde, que l'on doit régénérer aussi, ce monde qui a perdu son âme. Je crois qu'en fait, il y a ces deux idées dans la notion de présence. C'est la présence au monde, c'est la présence du monde ici.
Présence africaine de 1949 à 2019, création et transmission des mots et de la musique dans de vives voix, avec aussi le nouvel album du Sénégalais Noumou Kounda, c'est un talent RFI.
On aime les fesses charnues en plein dans la danse. Donc qu'est-ce qu'on va faire à part provoquer la chance? Fuck ta licence, ton talisman et tes manigances. Cœur et cervelle dans un gant de boxe, ma délivrance. Haut de vin, délit de boss, jadis, délit de gosse. La cuillère d'argent n'a fait que des jolies dépenses. Pour nos faciès, n'auront qu'à prendre d'autres circuits. D'autres logistiques, comment c'est cheap comme le biscuit. Clique, chacun son titre, titre, chacun son feat. Clique sur mon équipe étiquette pour faire du chiffre. Comme le hustle, le nous, des mains de nous. D'où nous venons, on a d'autres démons. Et beaucoup de venin dans nos canons, oui, on aime nos guenons. Mais c'est la victoire qu'on va qu'élan. Entre envoie la balance, les kangourous à la fella. Regarde la médaille, quoi, c'est un plaisir amical. D'un business en cannibale, on cherche ici amical. Les filles sous nos gales, et en fait, on a pris le large. Qu'est-ce qui est illégal, chacun accomplit ses tâches.
Jeff Folinawak, extrait de l'album de Noumou Kounda, Le Griot 2.0 sur RFI. Alors, on aurait pu passer aussi une chanson d'Abdel Malik qui sera présent aux 70 ans de présence africaine ce week-end à Paris, car il s'agit bien de cela aujourd'hui, un anniversaire et un colloque dont le thème choisi est la transmission. Romuald de Fonkoua, vous qui êtes rédacteur en chef de la revue Présence africaine et prof de littérature, est-ce que c'est un sujet essentiel que celui de la transmission, comment transmettre ces textes qui sont le trésor de la maison d'édition fondée par Youn Diop?
Ah, ça c'est une bonne question ça. Et je crois que le colloque va sans doute y répondre. Comment transmettre? Pourquoi transmettre? Que transmettre? C'est en fait toutes ces questions-là auxquelles il va falloir répondre. Pourquoi? Parce que c'était, me semble-t-il, pour les fondateurs déjà une question qu'ils se posaient à l'avènement de la revue comme à l'avènement de la maison d'édition. Que transmettre? Les cultures du monde à partir de l'Afrique. Quoi transmettre? Une certaine vision du monde à partir de l'Afrique. Comment transmettre à travers les ouvrages et la littérature? Mais transmettre quoi? C'est transmettre un certain savoir qui est un savoir que l'on dit africain, mais c'est un savoir qui est un savoir mondial aussi. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas fermé qu'à l'Afrique.
Mais transmettre, c'est aussi pour une maison d'édition, vendre, diffuser, rendre les livres visibles. Est-ce que quand on est une petite maison d'édition un peu artisanale, avec très 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 peu de gens, c'est pas le groupe Hachette, c'est pas la maison Gallimard, comment on fait pour être sur le marché présent et attirer des lecteurs?
Ben, ça fait partie de la question comment. Et je ne pense pas que l'un des soucis de Madame Diop, aujourd'hui directrice de la maison, soit de se comparer à Gallimard, ou alors de se comparer à Hachette. Je ne pense pas que ce soit ça son souci. En revanche, son souci, c'est d'une part de maintenir en l'état, c'est-à-dire vivant, un lieu qui est un lieu de transmission, justement, tel que voulu par les fondateurs, mais de le maintenir de telle façon à ce qu'il soit connu, un peu plus connu que ce qu'il n'est aujourd'hui. Alors pour cela, ben, il y a les outils qui sont les outils contemporains de la transmission, que sont le numérique par exemple. Il y a les outils contemporains qui sont sur la transmission, qui sont l'imprimerie. Et je pense que la maison d'édition a eu pour elle une chance, c'est de compter presque toujours sur des imprimeurs qui avaient en fait la générosité de savoir que la transmission était nécessaire pour des petites maisons d'édition comme celle-là.
Mais il y a aussi les dangers que l'on connaît aujourd'hui en matière d'édition. Par exemple, c'est le piratage.
Absolument. Et je pense qu'un des problèmes justement que connaît la maison d'édition, c'est le piratage des ouvrages qui n'existent qu'à présence africaine. Et c'est un phénomène qui est dû en particulier au fait que ces œuvres sont des œuvres qui circulent en Afrique dans un domaine qui est un domaine important pour la transmission, qui est l'éducation. Et que l'éducation, en Afrique aujourd'hui, connaît de vrais problèmes financiers. Mais pas que. Et au fond, pour pouvoir faire connaître ce savoir, le piratage devient un moyen de transmission. L'erreur, c'est que le piratage cause du tort à la maison d'édition, c'est-à-dire à celui qui est à l'origine du savoir. Il faudrait arriver à trouver des moyens de le corriger, en fait.
Alors, l'autre question, Romuald Fonquois, c'est celle peut-être de la pertinence d'une maison d'édition ou d'une revue strictement dédiée à l'Afrique et à ses auteurs. Est-ce que cela a encore du sens aujourd'hui, 70 ans plus tard, parce que le monde a changé en cette période de mondialisation où l'on voit finalement des auteurs africains publiés dans toutes les maisons. Est-ce qu'il y a encore une pertinence à avoir une maison comme ça très spécialisée ou est-ce qu'il y a un risque de ghetto ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait un risque de ghetto. Et je pense que sur cette question-là, il faudrait savoir raison garder. Quand on regarde sur la longue durée de l'histoire, les écrivains africains n'ont pas toujours été publiés dans une maison spécialisée. Les écrivains antillais n'ont pas toujours été publiés dans une maison spécialisée. Mais il se trouve que l'avènement de la maison d'édition Présence africaine a contribué à une sorte de visibilité de ces écrivains qui était absolument disparate un peu partout. Et une visibilité qui n'est pas qu'une visibilité physique, c'est-à-dire les livres réunis en un seul lieu, mais c'est une visibilité qui est aussi une visibilité idéologique. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ces écrivains arrivent à Présence africaine dans un but qui est un but précis, c'est défendre une certaine vision de la littérature, c'est défendre une littérature, c'est défendre une voix, une parole, un lieu où le discours peut être tenu, j'allais dire sans censure. Car l'un des problèmes justement que connaissaient les écrivains à l'époque et que connaissent encore les écrivains aujourd'hui, c'est la possibilité que leurs œuvres ne soient pas reconnues dans d'autres maisons d'édition. Et c'est comme sur le marché du vêtement, il faudrait donner sa chance au produit. Et en fait, je pense que Présence africaine donne sa chance aux premiers écrivains. Et quand on regarde très bien, on s'aperçoit que les premiers écrivains, Alain Mabankou par exemple est un exemple, hein, c'est qu'on lui a donné sa chance pour qu'il publie son premier roman et depuis c'est le grand écrivain que l'on connaît aujourd'hui. Je pourrais dire la même chose pour Fatou Diom. Quand Fatou Diom arrive à Présence africaine avec Préférence nationale, elle n'est pas l'écrivaine que l'on connaît aujourd'hui, mais on a donné sa chance à Fatou Diom. Je dis « on », mais il faudrait que ce soit très précis. Madame Diop a donné sa chance aux écrivains.
Mais est-ce qu'il faut penser Présence africaine comme une maison d'édition tête chercheuse ?
Ça peut
plutôt
être
plutôt qu'un mammouth, vous voyez.
Ça peut être une vision de la maison. Ça peut être une vision de la maison qui n'est pas totalement fausse, parce que quand on regarde effectivement sur la durée et ce que je dis là pour Fatou Diom ou bien pour Alain Mabankou, je pourrais dire exactement la même chose pour Mongo Betty alias Ezabuto. C'est lui qui c'est la maison d'édition Présence africaine qui publie son premier roman et qui va faire de lui l'écrivain que l'on connaîtra un peu plus tard. D'ailleurs, il disait que Alioune Diop était son accoucheur, ce qui était absolument vrai.
Alors la question du ghetto et de la visibilité de la culture noire était présente, bien évidemment, dans les débuts de la création de Présence africaine. Et c'est Alioune Diop qui commande en 1953 un film à Alain René et à Chris Marker autour de la question pourquoi finalement l'art nègre se trouve au musée de l'homme quand les statues grecques sont au Louvre. Et ce sera un film baptisé « Les statues meurent aussi ».
L'énigme, elle commence maintenant, ici, avec cet art pauvre, cet art du bois dur, avec ce plat à divination par exemple. Il ne nous sert pas à grand-chose de l'appeler objet religieux dans un monde où tout est religion, ni objet d'art dans un monde où tout est art. L'art ici commence à la cuillère et finit à la statue. Quand il fait reposer le siège sur des pieds d'homme, le noir crée une nature à son image. Dès lors, tout objet est sacré parce que toute création est sacrée. Elle rappelle la création du monde et la continue.
Les statues meurent aussi, Chris Marker, Alain René. Le film fut censuré à l'époque, en 1953. Aujourd'hui, il est accessible partout, il vient d'être numérisé. On le trouve même sur Internet, les temps ont changé, heureusement. Et l'art nègre, Romuald Fonquois, on disait art nègre à l'époque, s'appelle art premier aujourd'hui, il n'est plus au Musée de l'Homme. Est-ce que le pari est gagné pour vous ou est-ce qu'il faut insister ? Vous évoquiez tout à l'heure la question de la restitution. C'est un sujet qui vient se rajouter, finalement, à cette problématique de l'art premier de l'art africain.
Oui, je pense qu'en fait, ce que Alioune Diop avait très bien compris hein, dans les années 50, c'était que la problématique de la culture passait également par la problématique de la reconnaissance de l'art. Et d'un art qui devrait avoir pignon sur rue, et non pas simplement un art qui serait un art exotique, laissé aux soins des touristes, etc. Donc, c'était de faire reconnaître cet art comme étant un art mondial. Le film a eu, je crois, la vertu de pouvoir sortir ce problème-là des limbes. Mais il y a eu un numéro de la revue hein, qui a été consacré, bien sûr, n'est-ce pas, à l'art nègre aussi, à cette époque-là, et qui visait précisément à en montrer les qualités artistiques, les qualités esthétiques, mais également les qualités qui sont des qualités politiques. Est-ce que le pari a été gagné? Je dirais oui, d'une certaine façon. On n'est plus dans les années 50. Il a tellement été gagné que maintenant, on a changé de paradigme. On n'en est plus à se poser la question de savoir s'il faudrait montrer cet art-là en Europe comme un art. On en est maintenant à dire qu'il faudrait peut-être le montrer en Afrique comme un art. Un peu comme si l'Afrique avait été totalement dépossédée de son art. Et ce qui renvoie, bien sûr, n'est-ce pas, à la création du musée de Dakar.
Et c'est un peu la même question pour la littérature. Est-ce que les auteurs africains doivent-ils écrire en français ou dans des langues autres qui sont leurs langues maternelles? Et doivent-ils être publiés à Paris comme capitale du monde, ce que vous évoquiez tout à l'heure, en tout cas c'était vrai dans les années 40-50, ça l'est plus tout à fait aujourd'hui, ou dans les capitales africaines?
C'est une question que Senghor s'était posée dans la postface d'Éthiopique, où il disait que en fait on accusait les poètes africains d'écrire en français et qui ne respectaient pas les normes, ou alors ils écrivaient de façon tamtamesque. Alors évidemment, je crois que la question de l'écriture en langue française est une question qui aujourd'hui ne doit plus se poser, puisque la langue française écrite par des écrivains africains n'est plus française en fait, parce que la langue française ne l'a jamais été. On finit par s'en rendre compte maintenant que cette langue-là, pour reprendre une expression que j'aime bien d'Emmanuel Macron, elle s'est émancipée de la France. Oui. C'est-à-dire au fond que c'est le monde qui a pris la langue française par la main, puisque c'est en fait l'origine du terme émancipé. Et donc les écrivains francophones émancipent en fait le français de France, j'allais dire de ses racines, mais lui rendant une autre visibilité, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi.
Vous, Romuald Fonquoy, j'ai envie de dire monsieur le professeur, est-ce que aujourd'hui, comme ça très rapidement, on peut dire, sans faire trop de généralité, qu'il y a une littérature africaine ou une littérature noire comme un tout constitué, où ce sont finalement des individualités, des sensibilités, des cultures diverses qui s'expriment à travers tel ou tel écrivain?
Moi, je prendrais la seconde formule, c'est-à-dire que ce sont des diversités qui s'expriment à travers tel ou tel écrivain, parce que je ne pense pas qu'il y ait de commune mesure dans les discours, autrement que dans une certaine représentation, que c'est une représentation du continent, de relations évidentes entre tel écrivain sénégalais, tel écrivain camerounais ou tel écrivain tchadien. Il vaut mieux les regarder chacun dans leur diversité pour une raison assez simple, c'est que l'art est d'abord, qu'on le veuille ou non, littéraire ou pas, il est d'abord individuel, et qu'il faudrait justement regarder ces individus pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ont comme talent à nous montrer et à représenter. Les prendre de façon collective, ce serait une erreur.
Mais c'est encore une littérature de combat, c'est encore une littérature politique.
À toute littérature est politique. Toute littérature est une littérature de combat. Regardez un peu ce qui se passe sur le continent africain aujourd'hui. Regardez les prises de position d'Alain Mabankou par rapport au Congo. Regardez les prises de position de Mbougar Sarr, par exemple, par rapport à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Si la littérature n'est pas politique, il faudrait qu'elle cesse d'être. Et je pense que, d'une certaine façon, la littérature, qui est la littérature venue de ces régions-là, doit être politique essentiellement.
Romuald Fonquoy, en français, dans le texte, enfin pas très politique, mais quand même, on sait jamais, je vous propose de retrouver Lucie Bouteloup et sa chronique du mercredi.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Quelle expression aujourd'hui, parce que vous savez que je vous laisse carte blanche.
Eh bien, je suis heureuse de constater que vous continuez de me donner votre blanc-seing, donc, pour le choix des expressions dans la puce. Donner son blanc-seing, comme je viens de le dire, rassurez-vous, nul besoin ici de vous couvrir le poitrail. Daniel Lacote va tout nous dire sur le sein dont il est question dans cette locution. Dans la puce aussi, les CM1 de l'école Boulanger à Paris, cette fois encore, ils laissent libre cours à leur imagination pour notre plus grand plaisir.
Donner son blanc seing, c'est donner du lait.
Tu donnes quelque chose qui est blanc, qui est très beau, qui a de la valeur. T'as tellement de savoir, mais tu vas bientôt mourir, que du coup tu le donnes à quelqu'un qui est assez jeune pour le redonner après. Quand il y a une dispute, on dit t'es jamais tout blanc. Alors donner son blanc seing, c'est donner tout ce qui lui fait de bien.
À mon avis, ça veut dire donner quelque chose d'important, un document important à quelqu'un. Donc ça veut dire que tu l'aimes bien.
Si tu étais en train de mourir, donner son héritage
à un de tes fils et de la partie du corps, parce que si c'est le sein gauche ou le sein droite, c'est où le cœur, comme si tu donnais la partie plus importante du corps.
La puce à l'oreille, ta-ta-ta-da.
Pas mal, hein, Daniel Lacotte.
Ah oui, oui.
L'héritage
ils ont oublié
d'être
bêtes, ces enfants, quand même.
Ouais. Alors, avant de donner le sens de donner son blanc-seing, peut-être qu'il faut préciser l'orthographe de seing.
Oui. Alors, c'est S-E-I-N-G.
Donc, il y a un G à la fin.
Il y a un G à la fin. Et blanc-seing, il y a un trait d'union. Alors, que veut dire donner son blanc-seing? On l'a pas dit. Hein. Ça veut dire accorder quelque chose à quelqu'un, généralement, une organisation, mais accorder quelque chose les yeux fermés, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire faire confiance. On va y revenir tout à l'heure.
Donner à un tiers tout pouvoir d'agir.
Voilà, donner son accord.
Toute liberté d'action.
C'est au milieu du 15e siècle, à peu près. Hein. Donc, en fait, c'est très simple. Ça vient de blanc et de seing. Blanc-seing. C'est souvent comme ça, les mots composés. Et seing, S-E-I-N, ça veut dire signe. Et après, ça voudra dire signer.
C'est ce qui a donné signature. Donc.
Ce qui a donné signature.
Ça vient du latin signum.
Signum, voilà, c'est ça. Et ça veut dire un blanc signé, finalement. Et qu'est-ce
donc
que c'est?
Donc une lettre blanche.
C'est une lettre. Et au début, ça a même été même des parchemins, etc. Et on signait un document blanc. Qui
vierge,
était
en fait.
Vierge, complètement vierge.
Parce que le blanc
vierge.
Ici renvoie à la virginité, au vide, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc un document totalement vierge, et c'est comme faire un chèque en blanc aussi.
Absolument. Hein,
et donc on signait le document, et la personne à laquelle on donnait le document, on lui faisait tellement confiance qu'elle le remplissait elle-même. Alors ça pouvait être un document, un document de droit, tout ce qu'on veut, une lettre toute simple aussi. Hein. Il y a des testaments comme ça.
Alors le blanc-seing, c'est un petit peu comme la carte blanche.
C'est carte blanche, oui. C'est donner sa carte blanche à quelqu'un. Alors,
qui est une expression un petit peu plus ancienne, la carte blanche, qui est apparue un petit peu avant.
Un petit peu avant. Mais donc, on a parlé du côté très concret, hein, le document, la signature. Au sens figuré, la dérive est toute simple. Hein, c'est faire une confiance aveugle à quelqu'un. C'est assez peu utilisé, mais ça l'a été au début du 20e. On peut très bien dire donner son blanc-seing à ses enfants pour qu'ils aillent jouer ou qu'ils aillent en vacances. Allez, bah tu fais ce que tu veux, je te donne mon blanc-seing. Ça a existé dans ce sens-là, même au milieu du 20e, on l'entendait.
Donc on peut l'utiliser même dans un cadre assez futile.
Assez futile, oui. C'est même donner l'autorisation, tout simplement. Alors il y a une question de confiance, mais c'est donner une autorisation.
Alors donner son blanc-seing, j'ai pas trouvé beaucoup d'équivalents. En revanche, l'expression donner sa carte blanche, c'est une expression qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Notamment en Angleterre, on give a carte blanche, mon cher Daniel.
Ah, formidable. Et alors, en Roumanie, j'attends la Roumanie.
Alors, j'en suis pas là. En Espagne, en Argentine et au Brésil, on dar la carta blanca. J'espère
c'est
que
pareil.
Vous appréciez mon magnifique accent.
C'est
et c'est la même chose en Italie et aux Pays-Bas. Et je n'ai rien pour la Roumanie cette fois. On retrouve des variantes en Allemagne. Là, on laisse les mains libres. C'est vrai que c'est un synonyme.
Voilà, très bien. Ouais, ouais, c'est un synonyme très simple, mais voilà, c'est très bien, ça, oui.
Et c'est la même chose en République tchèque.
D'accord.
Eh bien, merci Daniel Lacotte. Soyez assurés que je vous donne carte blanche pour une prochaine puce à l'oreille. Je rappelle aux auditeurs que vous venez de faire paraître 100% zéro faute et que cet ouvrage est édité aux éditions First et qu'ils peuvent bien sûr retrouver la puce ainsi que toutes les précédentes sur le site de RFI Savoir. Savoir avec un S. À bientôt, mon cher Daniel.
Merci, Lucie.
Merci à vous, merci Lucie. Je vais vous demander un autographe pour voir votre beau sein. Romuald von Goa, pas de blanc seing, juste un conseil ou une recommandation. Chez Présence Africaine, s'il faut lire un livre ou deux livres, vous nous proposez quoi? Vous nous dites quoi?
Deux livres, allez, comme
allez,
ça. Moi, je proposerais Terre Sainte de Mbougarsar, qui a reçu le prix Kuruma du Salon du Livre de Genève, et qui, justement, est un roman politique. Et je conseillerais toujours Chacun ta Diop, Antériorité des civilisations noires. Voilà,
classique parmi les classiques. Merci beaucoup, Romuald von Goa. Je rappelle, les 70 ans de présence africaine seront fêtés lors d'un colloque ce samedi et dimanche à La Colonie, qui est un lieu d'échange et de débat à Paris. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.